nouvelle émission en plus du magazine.
Avez-vous jamais vu quelque chose de semblable?
Personne n'a rien vu de semblable depuis un siècle.
Un projet 48 FM que vous allez vénérer.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur 48 FM, vous écoutez Culte en radio. Ce soir, à la programmation musicale, on retrouve Ludo. Salut Ludo.
Coucou Martha.
Alors, aujourd'hui, une émission un peu spéciale, puisque totalement dédiée à l'architecture et à l'urbanisme. À la base de ce projet d'émission, une publication des éditions Fourre-Tout et de la société Libre d'émulation, la réédition intégrale de L'Équerre, une revue d'architecture publiée entre 1928 et 1939 et qui est le symbole du renouveau de l'architecture liégeoise à l'époque. Alors ça c'est le point de départ qui m'a donné envie de poursuivre un peu plus loin la réflexion, puisque L'Équerre, c'est une revue, mais c'est aussi un groupe d'architectes et d'urbanisme à qui on doit notamment la plaine de Jaurès-Astrid ou le palais des congrès notamment. On va en rediscuter un peu avec nos invités. Alors que reste-t-il aujourd'hui de tout cela? Quel héritage le groupe L'Équerre a-t-il laissé? Nous le verrons avec notre premier invité Pierre Ebling. Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisserai vous présenter en long et en large tout à l'heure. Nous envisagerons ensuite avec François Scheur la conservation de ce patrimoine et nous questionnerons sur la politique urbaine aujourd'hui menée par la ville. Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans la seconde partie de l'émission, nous interrogerons cette fois sur la place de l'architecte, mais aussi du citoyen dans ce processus de création. Pour en parler, toute une série d'intervenants que je vous présenterai en temps voulu, mais que je peux d'ores et déjà citer, donc Pierre Sauveur, Géraldine Broche, qui est déjà avec nous, bonsoir, Thomas Moore.
Bonjour.
Et Gaël Gillis. Mais tout de suite, pour vous laisser digérer ce programme bien chargé, un peu de musique avec Ludo.
Voilà, je t'avais promis une petite musique qui remonte le moral ici, c'est le cas.
Parfait.
C'est une licence libre, hein, comme j'aime bien, tu sais. C'est un groupe, déjà le nom, rien que ça, on sourit, c'est Ti Patapon. Et ils vous interprètent ici une chanson qui s'intitule Save the World. Ils viennent de Pierre-Latte en France et c'est vraiment de l'hyper-positivisme.
Thank you.
48 FM avec mes invités, bah, je vous propose de faire un peu un tour de table et de voir qui est là. Commencez peut-être par Pierre Ebling.
Oui, donc moi je suis architecte depuis 30 années. Je réside et je travaille ici à Liège. Et je suis exclusivement un praticien, donc je n'enseigne pas. Enfin, je complète mon activité par une intense activité de conférencier, je dirais, un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe. J'ai des mandats de diplomatie culturelle en Amérique latine, Chili, Pérou. Mais j'ai fondé depuis aussi 2004 en parallèle une maison d'édition qu'on a appelée Fourtou Édition, qui est un peu le point de départ de cette émission, je pense, puisqu'on sort un livre dans une proportion, enfin qui a une taille hors norme, 3,5 kg, 1500 pages ou 1350 pages. Donc voilà, c'est une grande part aussi d'un mode de réflexion à travers d'autres outils que l'architecture, pour essayer justement de rejoindre, je pense, une parole plus large que celle de la seule langue de l'architecture. Et c'est un peu la vocation de la maison d'édition, qui est un cas un peu unique au monde, puisqu'elle est vraiment en pratique et en fait gérée par les architectes de l'atelier, avec un graphiste en plus, mais c'est une production interne, voilà, au même titre que l'architecture elle-même.
On va reparler de cette vision particulière que vous avez de l'architecture. Je propose qu'on continue le tour de table avec François Scheurer.
Oui, donc je m'appelle François Scheurer. Et je suis conseiller communal élu sur la liste Vega aux dernières élections. Donc une liste un peu particulière puisqu'elle est née en très peu de temps et qu'elle est largement basée sur des préoccupations de nature urbaine ici à Liège.
Vous êtes également un des fondateurs d'Urbagora, si je ne me trompe.
Et oui, effectivement, mais on essaye de ne pas mélanger les deux casquettes.
Oui, okay.
Et donc je n'interviens pas ici
en tant qu'Urbagora,
mais en tant que conseiller communal.
D'accord. Peut-être continuer le tour avec Thomas Mort.
Oui, voilà, bonsoir. Merci pour votre invitation. Donc, je suis historien et je travaille à la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge de la promotion et la diffusion culturelle de l'architecture. Et par ailleurs, je suis représentant de l'architecture au sein de la CCATM, donc la Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité, qui s'achève ici après un mandat communal de 6 ans. Voilà.
Notre dernière invitée, Géraldine Broche.
Oui, bonjour. Moi, je fais de la recherche ici à l'Université de Liège en philosophie politique, et je mène une recherche doctorale sur la manière dont les pensées de la ville depuis les années 60 ont mobilisé les pensées politiques. Donc, comment on a problématisé politiquement la ville, voilà, dans la pensée urbaine depuis les années 60.
Mais ça, on va y revenir aussi. Je vous propose donc de commencer donc par cette réédition de l'équerre. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce projet? Est-ce qu'on peut dire un peu fou?
Oui, en fait, c'est... J'ai l'impression, depuis le 20 février, date officielle de la sortie du livre, qu'on a réalisé un rêve. Enfin, en tout cas, je vais parler à la première personne, mais que j'ai réalisé un rêve avec toute une équipe, bien sûr. Je vais d'ailleurs y revenir parce que... C'est un rêve un peu collectif. C'est un projet qui a demandé énormément de temps, mais aussi beaucoup de contributeurs, à la fois financiers, à la fois intellectuels. Oui. En réalité, j'ai découvert à la fin des années 80, après une décennie de travail, que la communauté dans laquelle je vivais diffusait très très peu la question de l'architecture, dans la mesure où il n'y avait pas de politisation de ces matières. Il y avait une patrimonialisation, mais pas une promotion, si on veut, de l'architecture de création. En visitant l'Europe un peu dans tous les sens.
C'est un peu le parent pauvre, on peut dire ça?
C'est-à-dire, c'est surtout, ça peut être une expression pourrait être le parent pauvre, mais c'est surtout une discipline qui est assise entre deux différentes chaises et de ce fait ne trouve pas de support média. Parce qu'il n'est pas dans la culture. En fait, après un audit dans la presse quotidienne, on s'est rendu compte qu'elle était à 75% dans les pages faits divers, à 20% dans les pages IMO, et finalement à 5% dans les pages culture. Donc on a alors une des difficultés dans lesquelles effectivement les membres de cet attablé par exemple se trouvent, à la fois en matière de recherche, à la fois en matière de politique ou en matière de participation citoyenne, hein, telle que CCAT et autres. Donc ça c'est une chose. J'ai découvert aussi à la même période que les autres régions d'Europe étaient nettement en avance, même dans les pays émergents centre-européens, directement la question de l'architecture était posée politiquement. Dans l'Espagne post-franquiste ou le Portugal post-salazariste, on trouvait effectivement une mobilisation extrêmement importante. Et donc à partir de là, différentes choses se mettent en place. En parallèle à ma pratique, je fonde une ASBL qui s'appelle HLM, qui va étudier le patrimoine du XXe siècle sur Liège. Mais également, je découvre qu'une revue d'architecture de l'entre-deux-guerres qui s'appelle L'Équerre, et j'en prends connaissance pour la première fois. Elle va, comment dirais-je, progressivement, je vais m'y intéresser. Mais vous voyez, il m'a fallu quand même 20 ans pour publier ceci. Mais, alors, je m'y intéresse, mais il y a un pas complémentaire qui est en 2004, un peu, comment dirais-je, échaudé dans le cadre d'un projet dont on entend qu'on construit en 7 heures le 12 février 2004. Le 13, on entend que le collège a décidé de l'abattre. Et donc, on entend ça à la radio, l'information n'était pas exacte, mais quelques heures plus tard, on a fondé une maison d'édition pour traiter nous-mêmes du sujet de la communication sur les projets et surtout leur genèse. Comment on monte un projet d'architecture? Qu'est-ce que ça signifie? En quoi c'est fédérateur? Quelle est la langue de l'architecture, etc. Et donc, avec cet outil Fourre-Tout Édition, on va alors publier aujourd'hui jusqu'à un catalogue d'une trentaine de livres, dans lequel on va s'intéresser à la fois au rapport entre l'architecture et l'écriture, par exemple, qui est la collection Architexto, les rapports entre l'architecture et la photographie, etc. Mais toujours dans une dimension culturelle appuyée vers un axe politique. Et il se fait que, alors, revient à la surface progressivement, et là on peut se poser la question, si j'ai répondu pourquoi un architecte fait une maison d'édition, pourquoi un architecte s'occupe d'histoire? Ça, c'est surtout d'une vieille histoire, quoi, de début du 20e, voilà. Bien, il se fait que, comme praticien et donc dans mes échanges de manière globale, générale, avec les pouvoirs privés, publics, avec les espaces simplement réflexifs, le fait qu'il n'y ait eu si peu de diffusion, il y a eu très peu d'intérêt et très peu de publications et peu de recherches sur des notions d'architecture et d'urbanisme, notamment sur le XXe siècle et notamment sur l'entre-deux-guerres, qui semble être un lieu très fertile du non-dit, en Belgique et à Liège, de manière générale en Europe, ça reste un lieu difficile à défricher. Or, l'actualité brûlante, si je peux dire, fait apparaître que la situation politique et économique aujourd'hui a quelques relents de cette période, puisque la revue va durer 12 années, donc c'est extrêmement long pour une revue dite d'avant-garde, c'est 1928-1939, et donc on voit apparaître dans cette revue, qui sort finalement à point nommé sous la forme d'un fac-similé, énormément de thématiques qui concernent des questions liées à la ville, mais à tout un chacun, puisque ça concerne l'éducation, ça concerne toute une série de franges à la fois réflexives, mais comme ce sont des architectes des étudiants en architecture au départ en 28, qui font de eux-mêmes leur propre bureau en 35, ils sont à la fois praticiens et à la fois ils ont un outil de pensée, un outil de diffusion, de communication, de fédération sur le plan européen absolument exceptionnel. On se rend compte aujourd'hui que L'Équerre est une des six grandes revues de l'entre-deux-guerres. Il y a les Vefanta à Brno, il y a une revue à Amsterdam, il y en a une à Hongrie, à Budapest, il y en a une à Barcelone, c'est la revue AC, il y en a une à Zurich, souvent d'ailleurs dans des villes de seconde importance. D'ailleurs, un des chercheurs, Jean-Louis Cohen, se penche sur cette question des villes de seconde importance et des foyers d'architecture extrêmement puissants, non pas dans les métropoles principales, mais dans des villes de seconde importance. Voilà, donc il y a ce parallèle qui se crée.
Mais comment est-ce qu'une revue